Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Oh, yeah.
veux pas qu'on nous sépare, surtout pas. David lui dit, on nous sépare pas. Enfin, le caravanier montre David et Maxime. Les négriers les entourent, ils regardent. Ça palabre beaucoup. Puis, avec un négrier, il montre Maxime. Le cavalier lui dit, oui, je peux le prendre. Caravanier dit, oui, je peux le prendre. Maxime comprend. Se met à crier, non, je ne veux pas quitter David. Les négriers réfléchissent. Puis, négrier dit, je veux les deux ensemble. Faux. Ils sont deux frères. L'autre réfléchit. Bien, je les prends. Et sort David et Maxime de l'enclos. Une fois sortis de l'enclos, on les enchaîne tous les deux. Les mêmes dans leur groupe d'esclaves noirs. Ils sont déjà prêts à partir. Et on fait partir la caravane. La caravane d'esclaves. David et Maxime suivent leur mouvement. Adieu la liberté, adieu vivre libre. À Lyon, le soir, la mère s'est aperçue que Maxime n'est pas de retour. Elle est inquiète. Lorsque son mari rentre, il la voit au salon. Elle lui dit, Maxime n'est pas encore rentré. Le mari lui dit, il a dû encore courir les rues. Lorsqu'il reviendra, nous lui dirons deux mots. Le temps passe, il est l'heure du repas. Toujours pas de Maxime, les parents sont inquiets. La mère dit à son mari, « Il faudra peut-être voir à son école. » Il dit, « Furieux, bien, j'y vais. » Et il sort de temps pour y aller. Arrivé au lycée, il sonne à la porte. La porte s'est ouverte. C'est le gardien, un petit homme tout maigre, cheveux gris, habillé avec un pull rapprécié. Il demande, c'est pourquoi ? Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche mon fils. Vous savez, nous ne savons pas où il est. Il n'est toujours pas rentré. J'aimerais savoir si par hasard il est retenu ici. Le gardien lui demande, le nom de votre fils. Henri lui répond, Maxime Lafarge. Tiens, attendez, je vais voir. Et il laisse le père, qui revient quelques minutes après. Il dit, non, Nous n'avons qu'un élève en retenue ce soir, le père lui dit. Bien, je vous remercie, monsieur. Et il s'en retourne. Il est furieux. Chez lui, il retrouve sa femme au salon. Il lui dit, il n'est pas rentré au lycée. Il n'est pas au lycée. Il n'est pas resté. Oh, je ne sais plus. Il n'est pas là-bas. Elle lui dit, j'ai pensé à une chose. Ce matin, je me suis aperçu que dans la boîte où on met la monnaie pour payer les fournisseurs, elle était vide. J'étais disputé les domestiques, mais ils m'ont dit que ce n'était pas eux. Maintenant, je pense qu'il l'a volé pour aller je ne sais où. Marie lui dit, ça ne m'étonne pas de lui. Elle lui demande, que faut-il faire maintenant? Il faut attendre, attendre. Rien. Rien. Ils attendent dans le salon pendant une heure, pendant deux heures, rien. La mère est inquiète. Elle demande à son mari, « Que faut-il faire ?» Il lui répond, « S'il ne vient pas cette nuit, j'irai au commissariat. » Elle lui dit, « Tu as raison, allons nous coucher. » Et sortent du salon pour aller se coucher. En allant à leur chambre, la porte de la chambre de Ferdinand s'est ouverte et en chemise de nuit et de manteau. Maxime n'est pas rentré, sa mère lui dit. Retourne te coucher, toi. L'enfant lui dit. Il est parti. Je suis bien content qu'il soit parti. Il ne m'ennuiera plus. Son père furieux le gifle et lui dit. Va te coucher, espèce d'idiot. Le lendemain matin, les parents se lèvent de bonne heure. Ils vont voir la chambre de leur fils, Maxime. Elle est vide. Ils vont au salon. Il est vide. Toujours pas de Maxime. À la cuisine. Non plus. Après le petit déjeuner, le père dit « Je vais aller au commissariat. » Il est furieux. Est-ce que ça lui fait pas du temps ? Il dit à sa femme. « Tu aurais dû mieux le surveiller. » Et il sort. De même, en premier, il va à la banque pour prévenir qu'il arrivera en retard. Là, il tombe dans le hall de la banque sur l'oncle. L'oncle voit furieux, il lui demande « Que se passe-t-il » Henri lui dit furieux « Maxime a disparu !» L'oncle lui dit « Ça ne m'étonne pas !» Il joue avec les vannes du pied. « Tu te rends compte, mon neveu, avec des vannes du pied ?» Le père hausse ses épaules et lui dit je vais au commissariat. Je vais au commissariat. Pendant ce temps, la mère pleure et se sent coupable. Le petit frère qui vient rejoindre sa mère au salon demande « Est-ce qu'il n'est pas revenu ?» Elle lui répond que non. « Il n'est pas revenu. » Ferdinand jubile. Son grand frère, qu'on prenait pour le modèle, a fait quelque chose de mal. Il demande pour enfoncer le clou. Où a-t-il pu aller ? La mère lui dit, « Nous savons pas, mon petit chéri. » Nous ne savons pas. Pendant ce temps, le père est entré au commissariat du quartier. C'est un commissariat qui est sombre, délabré. Il va à la banque où se trouve un agent. Il lui dit
« Bonjour, monsieur, c'est pour une déclaration, pour la déclaration de mon fils. »
L'agent lui dit « Bien, je vais voir si le commissaire peut vous recevoir. » Et il se retire. Le père est furieux. Enfin, l'agent revient et dit « Suivez-moi, monsieur. » Et le père suit l'agent, qui est un petit homme dans les 25 ans avec moustache. Il monte au premier étage et l'agent le fait entrer dans une petite pièce lugubre, où se trouve assis une table commissaire qui est un gros homme, petit, chauve, avec un costume marine délavé. Devant son bureau, il y a des chaises. Le commissaire dit à Henri, « Veuillez vous asseoir. » Henri va s'asseoir en face du bureau. Le commissaire lui demande, « Désiré ?» Henri lui dit, « Mon fils a disparu hier dans la journée. » Le commissaire lui demande, « Il est peut-être chez des amis. » Henri lui dit, « Non, il ne connaît personne. » Le commissaire soupire, prend un papier et lui dit, « Vous allez me donner son prénom, âge, adresse, puis me dire comment il est physiquement. » Allez. Et le père fait la description. Henri décrit son fils, lui donne son âge, l'adresse où il habite. Il donne aussi le nom de l'école où il est. Le commissaire lui dit, « Bien, nous allons faire des recherches plutôt. » Le commissaire dit à Henri, « Il a peut-être été pris. Vous savez, le vol d'enfant, ça existe. » André lui dit, « Je ne crois pas. C'est plutôt une fugue, vu qu'il a volé de l'argent. » Le commissaire demande, « Avait-il des amis ?» Henri lui dit, « Non. » Le commissaire lui dit, « Bon, nous ferons des recherches. » Et l'on fait des recherches, mais ça n'a rien donné. Le supérieur de l'école a été prévenu par Henri, c'est un prêtre. Le supérieur a reçu Henri dans son bureau. Il dit à Henri, c'est un enfant sage. Henri lui dit, il cachait bien son jeu. Le supérieur lui dit, quel dommage. Lui qui avait de si bonnes notes, il a peut-être été pris par les mahométans. Le père ouvre ses épaules et lui dit, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Le supérieur lui dit, ça existe toujours, vous savez. Au salon, la mère dit à son mari, c'était un fourbe. Je l'ai toujours dit. Toi, tu as toujours passé tous ces caprices. Son mari lui demande, et pourquoi ? Elle lui dit, tu n'étais pas assez sévère, c'est de ta faute. Il lui dit, il est peut-être parti parce que toi, tu l'étais trop. Elle lui dit, c'est faux. C'est moi qui suis coupable maintenant. Elle prend Ferdinand dans ses bras et dit, lui au moins, il ne fera pas de peine. Son mari ouvre ses épaules et lui dit, il ne risque pas, il est tellement niais. Ne fais rien. La femme lui dit, l'autre était bon à quelque chose. Son mari lui dit, ne parle pas de lui au passé. Et puis l'autre, comme tu dis, était très bon élève. Elle lui dit, ça lui a servi à quoi ? Il lui dit, nous verrons. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Peut-être a-t-il été pris malgré lui. Elle lui demande, l'argent aussi
Il la prit malgré lui et lui dit, l'argent qui te dit que c'est lui. Elle lui demande, et qui? Il lui dit, je ne sais pas moi, un domestique. Mou. Tu croyais peut-être qu'il en restait. Pendant ce temps, en Afrique, Maxime et David sont les seuls blancs enchaînés. On leur donne des coups de verge pour les faire avancer sur un parcours qui est jonché d'ossements. Ceux qui ne peuvent pas suivre sont abandonnés, vivants ou tués. Les femmes violées, les enfants aussi. Ils ont très peu d'eau et de nourriture. Maxime se demande pourquoi on les laisse. On ne les touche pas autant que les autres. David lui dit, je pense que c'est parce que nous sommes blancs et que nous volons plus cher que les autres. On les fouette malgré tout, mais moins fortement. On leur donne une espèce de bouillie d'eau et de farine. C'est de l'eau des flaques d'eau des hommes, des bêtes, des flaques d'eau, des hommes, des bêtes ont marché dedans. Elle est sombre, sans mauvais, même les gardes en boivent. Ça dégoûte Maxime et David. La chaleur, les insectes, dont les mouches, les moustiques le soir. Il y a aussi des serpents auxquels il faut faire très attention parce qu'ils sont très très dangereux. Le paysage est aride avec très peu d'eau et végétation. Des villages primitifs, bêtes squelettiques comme les noirs qui ont des plaies. Les enfants sont venus cracher au visage des esclaves. Ils regardent avec curiosité parce que ce sont deux blancs. Ils recherchent même à les toucher. Les enfants sont épuisés, la peau brûlée, vêtements en loc. David dit, moi qui aimais bien les histoires d'aventure en Afrique, maintenant je suis dégoûté. Oui, maintenant je suis dégoûté. Les jours passent, tristes, pénibles. Leurs chaînes leur semblent lourdes et les blessent. Dans un village, des hommes viennent chercher des esclaves. Ça palabre beaucoup. Ils en prennent quelques-uns, ce qui crée des grammes parce que les femmes sont séparées de leurs maris, les enfants de leurs parents. Maxime et David ne sont pas pris parce qu'ils sont trop chers. Maxime dit à David, si nous sommes séparés, nous serons perdus. Maxime est démoralisé. David le réconforte comme il peut. David lui dit, vous tenez un coup. Tenez un coup, nous en sortirons. Nous sommes deux. Dans la savane, à un tournant, ils sont pris, attaqués par des noirs nus avec des haches qui attaquent la caravane. Les gardes se battent à coups de hachette. Ceux qui les attaquent sont plus forts qu'eux parce qu'ils sont moins épuisés. Les esclaves regardent, ça surpris, mais ne peuvent bouger parce qu'ils sont enchaînés. Ils ont peur aussi d'être tués. Il y a une grande confusion dans cette bataille. On se tue à coups de hachette, de sang gicle. Les membres séparés du corps, les corps tombent. Les noirs sont terrifiés parce que les noirs qui les attaquent sont primitifs. Au cours de la bataille, en se battant, les noirs éloignent du groupe les deux enfants, peut-être pour les protéger. David dit à Maxime, écoute, ils vont profiter pour nous enfuir. Ils ont été mis un peu à l'écart, ils sont enchaînés tous les deux ensemble. Or, dans le désordre de la tuerie, lorsqu'ils ne sont pas vus, et puis trop occupés à se battre, David et Maxime se mettent à courir droit devant eux. Ils sont enchaînés. Ce n'est pas facile de courir enchaînés l'un contre l'autre. Ils courent le plus vite possible. Et c'est pas facile enchaînés. Ils arrivent à s'éloigner. C'est pas facile de courir, enchaîner l'un à l'autre. Cours, cours dans la savane, la peur de se faire rattraper. La nuit tombe, elle tombe vite dans cette région. Épuisés, ils s'arrêtent en pleine brousse. Oui, ils s'arrêtent en pleine brousse. Heureux d'être libres. Maxime demande, nous allons où maintenant? Là? Là? David lui dit, je sais pas. Faut faire attention, parce que si nous choisissons la mauvaise route, nous risquons de nous enfoncer dans l'Afrique. Maxime lui demande, alors que faire? David lui dit, la nuit est là, nous sommes épuisés de notre course, couchons-nous. Ils se couchent sur le sol. Les nuits sont fraîches et les journées très chaudes. Mais épuisés, ils réussissent à s'endormir. Ils sont épuisés de leur course et ont très faim et soif. Ils sont toujours enchaînés. Le matin, le bruit des bêtes les réveille. Encore épuisés et affamés, ils se mettent en route. David dit : Je me sens coupable, tu sais. C'est moi qui t'ai emmené dans cette galère. Maxime lui dit : Tu n'y es pour rien, nous devions aller en Amérique. Le vent, la chaleur, la faim. Ils sont seuls et doivent se débrouiller pour trouver à manger. Manger quoi ? Ils n'ont pas d'armes pour tuer des bêtes. Ils ne peuvent pas faire chauffer les aliments. Ils regrettent même leur bouillie. Ils mangent de l'herbe. Oui, mangent de l'herbe. Ça les fait vomir, mais au moins ça leur coupe l'appétit. Tout d'un coup, un gros serpent leur barre la route. Ils s'arrêtent, terrifiés. Ils sont épuisés aussi. David dit à Maxime : Ce qu'il faut, c'est courir en faisant des zigzags. Courir très très vite. Tu comprends ? Oui. C'est ce qu'ils font. Ils courent très vite, très très vite, en faisant des zigzags. Ils se retournent et voient que le serpent ne les a pas suivis. Ils sont épuisés, essoufflés, affamés. Ils voient au loin des arbres, se dirigent vers les arbres. Ils vont vers les noirs. Lorsque les noirs les voient, la plupart du temps, ils les prennent pour des dieux. Alors on leur donne à boire et à manger. On les prend pour des dieux ou des revenants, parce que les revenants des fantômes des ancêtres. Parce que lorsqu'un noir meurt, sa peau blanchit. Maxime se sent de mieux en mieux. Un jour, Maxime dit à David : Malgré les difficultés que nous avons eues, traverser un désert de sable et de cailloux, difficulté à marcher lorsqu'on a le soleil brûlant au-dessus de nous, rien à manger ni boire. Maxime lui dit : Malgré tout ça, je rechercherai plus tard cette joie douloureuse et au-delà de la vie, près des dieux. David lui dit, depuis quelque temps, tu parles drôlement. Mathilde lui dit, c'est parce que j'ai changé et que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu nous change. David lui dit, si nous étions restés à Lyon, ça aurait été pareil pour moi. Moi, je n'ai pas changé. Ici, je trouve ce que j'ai toujours connu. La faim, la peur, le chaud, le froid. Maxime lui dit, oui, c'est ce que nous vivons ici, ensemble, nous unis et nous rend plus forts parce que ici nous sommes liés. Si nous étions restés à Lyon, je n'aurais pas connu cette paix que j'ai trouvée ici. Oui, cette paix que j'ai trouvée ici. Ils avancent, trouvent droit devant eux, ils ne savent pas où ils vont, maigris, noircissent, mais restent beaux. Ils n'ont presque plus de vêtements, tellement ils sont en loque. Pour faire le besoin naturel, ils se mettent dos à dos, et il y a des feuilles suffisamment grandes pour s'essuyer avec. De faire ça, ça gêne plus Bastille. Ils sont recouverts de poussière. Lorsqu'il y a de l'eau, ils en boivent et se lavent face sur leur corps. David rit et dit, je me mets à regretter la neige. Ils pêchent plus facilement, ils savent mieux préparer le poisson. Quelquefois dans ces lieux, il y a des oiseaux. Ils cherchent des œufs. David montre à Maxime comment les gober. La nuit, le froid revient plus menaçant. Ils n'ont rien. Des fois, des buffles ou un lion ou serpent leur bat la route. Ça ne leur fait plus peur. Oui. Sauf pour les serpents, parce qu'ils ne savent pas comment faire avec eux. Le soleil fait mal à Maxime. David lui dit, ferme les yeux, je te guiderai. Maxime rit et ferme les yeux. Il dit, les chaînes nous réunissent et nous font mal, mais nous prouvent que l'on n'est pas seul. David lui dit, arrête de parler comme ça. Maxime lui demande, comment comme ça? David lui dit, comme un maître d'école ou un livre. Maxime rit et lui dit, comment veux-tu savoir que je parle comme un maître d'école ou comme un livre, puisque toi, tu n'as jamais été à l'école, il ne sait pas. Il ne sait dire. David lui dit, j'ai appris en étant près de toi. J'ai compris comment parler ces messieurs qui savent parler. Un jour, ils voient au milieu de la brousse une grande bosse avec une cime blanche. David demande, qu'est-ce que c'est que ça? Maxime lui dit, ça doit être un mirage. David demande, c'est quoi un mirage? Maxime lui réplique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils voient toujours cette chose, cette grande hauteur, avec en haut du blanc. Il dit à David, c'est comme une grande montagne dans les Alpes. David lui demande, c'est quoi une montagne dans les Alpes? Lui, ne connaît que Lyon. Il lui explique. Fontaine, c'est grand et gros comme ça, et même des fois beaucoup plus grand. Il y a la neige dessus tellement c'est haut et qu'il fait froid. David lui dit, c'est peut-être pour ça qu'on les voit de l'Afrique ou de la mer. C'est parce qu'elles sont hautes. Mathilde lui dit, c'est pas possible. Mais nous allons voir. Pour le trajet, pour un trajet très long, c'est plus loin que prévu. Oui, plus long que prévu. Un jour, ils sont poursuivis par des Noirs qui ont des hachettes. Ils courent, ils ont très peur. David dit, c'est peut-être des cannibales. Elle se demande, comment le sais-tu? Ils ont des hauts os sur le nez. Dans le nez, je veux dire. Alors Maxime et David se mettent à courir le plus vite qu'ils peuvent. Entre les cannibales et les Noirs, et eux se mettent un tigre. Le tigre va aller vers les Noirs, et les enfants se mettent à courir. Ils se mettent à courir le plus vite possible, tant que les Noirs sont occupés avec les tigres. Puis, au bout d'un moment, ils arrêtent leur course. Oui. Ils ont arrêté leur course. Ils se retournent pour voir s'ils ne sont pas poursuivis. Ils continuent leur route jusqu'à cette montagne enneigée. Au fur et à mesure qu'ils avancent, la savane est de plus en plus verdoyante. Il y a de plus en plus de coins d'eau. Il semble que la montagne se rapproche d'eux. Elle devient de plus en plus haute. Puis, un jour, ils entrent dans une forêt verdoyante. Les arbres sont tellement hauts et les feuilles tellement grandes qu'ils ne voient plus le ciel ni la montagne. C'est très verdoyant. Il y a des fleurs, immenses fleurs. Les arbres sont très touffus. Il y a des torrents qui se déversent. C'est le paradis. Oui, le paradis. Forêt luxuriante, cascades, torrents, animaux. Oui, le paradis. Et cette fraîcheur si délicieuse. On entend le bruit de la cascade, le chant des oiseaux. Cette fraîcheur les fait revivre, ils se sentent mieux.
Il marche, émerveillé. David dit, c'est le paradis. Maxime lui dit, oui, le vrai paradis. Ils s'enfoncent dans la forêt sans savoir où ils vont. Ils sont tellement heureux de se trouver dans ce milieu. C'est tout juste si l'on voit, parce que les rayons du soleil ne peuvent franchir cette épaisseur de verdure. Tout d'un coup, une grande clarté, où malgré tout, on ne voit pas le ciel à cause des arbres qui entourent cette clairière et de ces branches qui sont très grandes avec des feuilles immenses. Ils voient un village primitif, de noir. Il y a une douzaine de cases. À côté des cases, il y a comme des jardins où les noirs font pousser leurs légumes. Les noirs habitent dans ces cases, semblent calmes et doux. Ils sont habillés de panne. Ils ne savent pas qui sont ces deux êtres qui viennent vers eux, qui sont ces deux enfants, mais ne se choquent pas. Maxime et David se présentent. Ils leur expliquent avec des signes qu'ils ont faim et soif. Les noirs les accueillent bien parce qu'ils croient que ce sont des dieux qui viennent de la montagne. Par des signes, on leur offre à manger et à boire pour qu'ils puissent se reposer. Maxime et David se sentent mieux. Ils s'endorment heureux. Ils voient que les paysans cultivent à leur façon ce dont ils ont besoin. Pour protéger leur culture et faire des produits variés, ils mettent leur plantation près d'un arbre qui fait de l'ombre aux plus petits et qui met de l'ombre aux plantes à terre. Les arbres aussi apportent des fruits, etc. Ils vivent en petits groupes et aiment leur forêt et la montagne qui est pour eux est leur Dieu qui leur apporte tout ce dont ils ont besoin. La montagne leur apporte l'eau, la fraîcheur. Les enfants comprennent que la montagne enneigée qu'ils ne voyaient plus est au pied de cette forêt. Les enfants comprennent que la montagne constamment de la neige et est très haute. Les indigènes l'appellent Kilimandjaro, un paradis en pleine montagne. Les noirs n'ont jamais vu de blanc. Ils croient qu'ils viennent des dieux. Les deux enfants se font enlever leur chaîne par des noirs. Les noirs les gardent précieusement comme une relique religieuse.
Maxime et David vont se baigner dans les torrents. Tous les noirs vont les voir, ce qui les gêne un peu parce qu'ils sont nus. On les touche, les palpe, leur tire la peau et les cheveux. Les cheveux blonds de Maxime font un effet. Les noirs rient et en même temps ont peur. Ils sont pacifistes et ont toujours vécu entre eux. Les enfants sont heureux. Ils ont une case à manger et à boire. Mais ils ne comprennent pas le langage des Noirs. Ils se remettent de leur long périple. Pour remercier les Noirs, ils travaillent avec eux, cherchent à les aider dans leurs travaux, ce qui fait rire les Noirs. Les enfants noirs les singes en riant. Ils savent pas où ils sont, mais se sentent bien. Ils essaient d'expliquer aux noirs qui ils sont et comment leur expliquer ce qu'ils ne peuvent comprendre. Ils n'ont jamais quitté le pied de leur montagne. Maxime dit, ils ont raison, ils sont entourés d'un pays hostile, brûlant et barbare.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, d'Homme. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.